Parlons économie. Sur Radio Lac et les chaînes Carac.
Nouvel objet de votation fin septembre autour de la réforme de la LPP pour une imposition, la réforme de la prévoyance professionnelle, modification du 17 mars 2023. Rebonjour Simone de Montmelin, je rappelle donc que vous êtes conseillère nationale PLR et ce depuis 2019. Vous êtes également membre du comité des femmes pour la réforme de la LPP, parce que j'ai beaucoup entendu dire que c'était une réforme anti-femme, on va en parler avec vous. Vous êtes également œnologue, comme ça j'ai tout mis sur la table. Avant toute chose, parce qu'on en parlait hors antenne, moi ça m'a toujours choqué, avant l'école de commerce, je ne savais même pas ce que c'était que les différents piliers. D'une certaine manière, je trouve qu'on est très mal éduqué à ça en Suisse. Est-ce qu'on peut rappeler à quoi servent les différents piliers ?
Oui, alors, c'est vrai qu'on ne pense pas prévoyance a priori que lorsqu'on sort des études et qu'on commence dans la vie active. Et pourtant, on sait que la Suisse, elle a un système de prévoyance qui est fondé sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'AVS, hein, c'est une prévoyance, on dira, d'État, qui est fondée sur la redistribution et qui a pour but d'assurer les besoins vitaux. Ça a été fait au sortir de la guerre, c'était une acquisition vraiment importante. Ensuite, on est venu le deuxième pilier, bien plus tard. C'est une prévoyance commune entre l'employeur et l'employé. Et là, c'est une prévoyance à capitalisation qui a pour but d'assurer que le niveau de vie après la retraite soit maintenu. Celui-ci, c'est celui dont on va parler qu'on veut réformer. Et puis, il y a un troisième pilier qui est là, une prévoyance tout à fait individuelle et volontaire, qui est aussi une prévoyance à capitalisation et qui peut être utilisée pendant la vie pour acheter un bien immobilier ou pour améliorer encore son revenu à la retraite. Ces trois piliers, c'est vraiment l'essence de notre prévoyance en Suisse. C'est ce qui garantit la stabilité et la durabilité du système. On n'en parle pas suffisamment, mais le deuxième pilier, c'est vraiment le pilier qui garantit la stabilité à long terme, puisque c'est celui qui rapporte le plus, en fait. Hein. Ce que l'employé cotise va être au minimum doublé par l'employeur, et voire triplé par les gains en capital tout au long de la vie. Et ça, c'est valable pour tous les employés, en fait, tous ceux qui ont la chance de pouvoir être affiliés, d'être assurés au deuxième pilier, et on en parlera. Ce qui est important, ce qu'on peut rajouter, c'est de maintenir cet équilibre entre ces trois piliers, parce que c'est vraiment cette manière, ce système complémentaire qui permet de limiter les risques.
D'ailleurs, je le dis, on peut racheter aussi des parts de son deuxième pilier, ça peut faire des différences dans l'impôt à la fin, enfin, il y a plein de subtilités comme cela. Puisque ce sont ces trois piliers qui sont importants, vous dites le deuxième est capital, alors pourquoi le réformer ?
Bien, aujourd'hui, comme je l'ai dit, malheureusement, pas tout le monde a accès à ce deuxième pilier. Hein. On va corriger avec cette réforme deux inégalités. La première, c'est que pas tout le monde y a accès, en particulier les bas salaires, les revenus multiples, les temps partiels. Et donc, pour ces revenus-là, on doit pouvoir les rendre accessibles à l'assurance du deuxième pilier. Et puis, pour un autre phénomène qui concerne l'ensemble des piliers de la prévoyance, c'est que nous allons vivre plus longtemps. Et lorsque les modalités de rétribution du deuxième pilier ont été imaginées, eh bien, c'était une époque où on vivait entre 5 et 10 ans de moins qu'aujourd'hui. Donc, pour ces raisons-là, on doit adapter le système pour le rendre durable.
Est-ce que c'est un système qui sera équilibré ensuite ? Parce que celles et ceux qui sont contre ce qu'ils appellent l'arnaque de la LPP, c'est précisément parce que les rentes se réduisent, on va continuer de payer plus pour avoir des rentes qui diminueraient jusqu'à 3200 francs, ce sont leurs chiffres, par année, et ça toucherait principalement les plus de 50 ans, la classe moyenne et les jeunes. Il ne reste plus beaucoup de monde à la fin.
Alors c'est entièrement faux. D'abord, je tiens à dire, et ça a été rappelé dans la presse alémanique de manière assez frappante, les chiffres sur lesquels se base l'USS pour afficher ces allégations sont totalement faux. Ils ont dû revenir sur leur citation la semaine dernière. Hein. Donc, ce n'est pas.
Je suis sur aujourd'hui le site internet actuellement.
Oui,
pour information.
C'est pas le cas. Ce qui a été démontré, et ça, c'est par des études tout à fait sérieuses, c'est que aujourd'hui, avec cette réforme, eh bien, c'est environ 450 000 personnes qui auront des rentes améliorées, voire qui pourront enfin accéder à une rente deuxième pilier. Parmi ces 450 000 personnes, on parle de 80% de femmes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ceux et celles en particulier qui sont frappés par le temps partiel, par les bas salaires et par les emplois multiples, ce sont les femmes. Donc, ces allégations sont totalement fausses, elles ne sont pas fondées. Et en fait, elles mélangent deux concepts, ce que j'expliquais en préambule, à savoir que le deuxième pilier n'est pas une assurance à redistribution, c'est une assurance à capitalisation, où chacun doit pouvoir profiter du capital qu'il épargne pendant toute la vie. Ce qui est nécessaire aujourd'hui dans cette réforme, et ce que les opposants aussi évoquent, c'est la question de l'abaissement du taux de conversion, et ça leur fait faire ces calculs. Mais il faut savoir que cet abaissement du taux de conversion ne va concerner que 15% de la population assurée.
C'est beaucoup.
Ceux qui sont... Non, c'est pas beaucoup. C'est 15% qui auront ensuite des rentes améliorées. 15% qui sont assurés en régime obligatoire. Et donc, ça veut dire que 85% de la population n'est pas concernée. Mais pour ces 15%-là, ça fera une sérieuse différence. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les caisses qui ne peuvent pas adapter leur taux parce qu'ils n'ont pas de régime surobligatoire, donc ces caisses qui doivent appliquer le taux légal, eh bien, auront de la difficulté à pouvoir assumer le versement des rentes pendant une durée plus longue et donc vont devoir, et ça c'est déjà observé actuellement, puiser dans l'épargne des actifs pour pouvoir financer les retraites des personnes qui sont déjà retraitées. Et ça, c'est tout à fait un hold-up, on peut dire, parce qu'en fait, ce n'est pas fondé sur la redistribution, c'est en fait fondé sur la capitalisation. Et pour ces raisons-là, on est obligé de modifier la base légale.
Le mot est lâché, hold-up, et on entendra l'avis de Nathalie Hardy dans quelques instants sur Radio Lac sur Carac.